Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Plus de 5800 migrants ont été secourus ce week-end au large des côtes libyennes. Les corps sans vie de 10 personnes ont également été retrouvés. Selon l'Organisation internationale des migrations, depuis le début de l'année 2015, plus de 1750 migrants ont disparu en mer dans le naufrage de leur embarcation en Méditerranée. Ils viennent de Syrie, d'Irak, d'Érythrée, d'Afghanistan, du Yémen, sont prêts à prendre tous les risques possibles pour fuir les persécutions, les conflits, le terrorisme, la misère. Le parcours migratoire devient alors un véritable calvaire. Les rescapés sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Ils ont souffert de la faim, de la soif, ont vu leurs proches mourir sous leurs yeux, ont eu peur de mourir eux-mêmes, se sentent coupables d'ailleurs d'être restés en vie. Difficile de se reconstruire dans de telles conditions après avoir vécu de telles violences. Alors quel traumatisme laisse ce parcours migratoire? Quel soutien psychologique faut-il apporter aux survivants? Comment vivre après un tel drame? C'est ce qu'on va voir avec mes invités aujourd'hui. Ils sont deux autour de cette table. Armand Docoté, qui est psychologue clinicien à l'association Primo Levi, et Maurice Joyeux, qui fait partie de JRS, Jésuites Réfugiés Service, une association qui travaille auprès de nombreux immigrés justement d'Afrique, de Syrie, d'Afghanistan et du Pakistan. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler pour apporter un témoignage, donner votre point de vue, le 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone Babacar Diallo, qui a quitté le Sénégal à l'âge de 16 ans, a vécu une traversée en bateau cauchemardesque pour venir en Europe. On aura également au téléphone une psychologue pour Médecins Sans Frontières qui est basée en Italie. Et pour terminer, on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon. De côté, Maurice Joyeux, bonjour.
Bonjour.
Peut-être
bonjour,
juste une précision avant d'avoir d'écouter le témoignage de Babacar Diallo qui est en ligne avec nous depuis l'Espagne. On utilise beaucoup le terme migrant en ce moment, Armand de côté, mais en fait, c'est probablement pas le bon terme. Ce sont pas des migrants pour la plupart, ce sont plutôt des réfugiés, non?
Oui, tout à fait. C'est ça que le centre Primo Levi essaye aussi de mettre au clair par rapport à la migration, c'est-à-dire que c'est un terme qui, disons, on emploie pour justement, on va dire, noyer les poissons, si on peut dire, justement, parce que quand on voit ces personnes qui essayent de traverser la mer ou prennent un avion, ils arrivent en France ou en Europe, c'est justement pour demander refuge, donc demander un asile et demander aussi de l'aide et une protection. Donc effectivement, c'est un terme qui prête à confusion, mais je pense que c'est employé de façon objective, de façon, c'est-à-dire que le but, c'est justement n'est
pour
pas...
mélanger, pour maintenir la confusion, justement.
Tout à fait.
Maurice Joyeux, la France, enfin et l'Europe, a signé la Convention de Genève, et dans cette Convention de Genève, on s'est justement engagé à accueillir les réfugiés qui fuient des conflits, non?
Oui, mais voyez, déjà, vous employez le mot réfugié. Moi, je dirais, ce sont des fuyants. Les migrants, ça fait un peu migration calme. En réalité, on n'est plus à cette époque. Il y a une migration qui est un exode souvent dans l'urgence. Plus ou moins manipulé politiquement, mais réellement, comme vous l'avez dit au début de l'émission, dans l'urgence et sous la pression de la guerre, de la faim ou tout simplement de souffrances intolérables de la part des pays d'origine. Donc, pour moi, il y a un enjeu immédiat d'abord de lutter contre les naufrages en mer Méditerranée comme en mer Égée. Il y a urgence humanitaire avant de parler même de la réflexion en amont ou en aval sur l'accueil sur le continent, puisque c'est sur la mer que les enjeux se jouent aujourd'hui dans les ports de départ, mais surtout en mer même. Donc il y a une urgence d'éveil et aussi d'arrêter de seulement discuter sur la différence entre réfugiés, demandeurs d'asile, ou ça c'est quand on est au calme et qu'on peut s'exprimer. On n'en est plus là.
On n'en est pas là pour l'instant. On a au téléphone Babacar Diallo. Babacar Diallo, bonjour.
Bonjour Claire.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous avez 26 ans, ça fait 10 ans que vous êtes en Espagne. Aujourd'hui vous êtes électricien, marié avec un petit garçon de 2 ans, vous êtes d'origine sénégalaise. Je voudrais bien qu'on précise que c'est grâce à votre témoignage dans l'émission de Juan Gomez, Appel sur l'actualité, où justement une émission a été consacrée à cette question des migrants et des drames en Méditerranée. Et quand je vous ai entendu témoigner sur ce que vous aviez vécu en Méditerranée, je me suis dit mais bien évidemment que ces migrants sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu. C'est comme ça qu'on a eu l'idée, grâce à votre témoignage, de faire cette émission. Babacar, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord quand et comment vous avez quitté le Sénégal?
En fait, bonjour d'abord à tout le monde et toujours je ne cesse de dire rendre un hommage à tous ces gens qui fuient la misère, la guerre et la pauvreté pour chercher des terres meilleures. Moi, j'ai quitté le Sénégal quand j'avais 16 ans, je faisais la troisième et ma mère était dans l'obligation, en fait dans l'obligation, parce que tous les gens du quartier avaient leur fils qui était à l'étranger. Et ma mère, avec sa tontine, y avait un gars qui disait qu'il était possible à partir du Maroc de rejoindre l'Espagne. En fait, comme je suis l'aîné de la famille, ma mère m'a dit, écoute...
Il faut que tu assures les revenus de la famille quelque part. Il faut que tu ailles en Europe pour assurer. Voilà. Donc vous avez quitté le Sénégal. Vous avez quitté le Sénégal comment?
Ben j'ai quitté le Sénégal avec les moyens de bord. On est parti en bus jusqu'à Mauritanie et à Mauritanie on a rejoint le Maroc toujours en bus.
Et là au Maroc?
Au Maroc on est resté 2 ans. J'étais avec des amis et on jouait au cache-cache avec la gendarmerie mauritanienne. On était dans la forêt près de la frontière et c'était des moments, un moment très difficile parce que c'était un tout petit peu comme dans la jungle. On faisait subir la loi du plus fort. De toutes les façons, l'agression sexuelle parce que de là-bas, les gens qui sont plus forts s'en donnaient aux plus faibles. Et voilà. Et 2 ans, je suis resté là-bas.
Bon, c'est-à-dire deux ans au Maroc avant de pouvoir partir en bateau, c'est ça? Avant de pouvoir partir vers l'Europe?
Oui, 2 ans au Maroc. Et ensuite, je suis revenu en Mauritanie parce qu'on nous a fait savoir qu'il était plus facile de gagner l'Espagne par la Mauritanie. Et nous sommes revenus en Mauritanie, moi et autres camarades. Et de là-bas, nous avons pu embarquer avec une pirogue où on était une cinquantaine pour l'Espagne.
Comment s'est passée la traversée?
Bon, en fait, on est resté quasi une semaine à préparer le traversée parce qu'on pouvait pas avec les gardes-côtes mauritaniennes. On se préparait et on avait des sacs à dos et pour acheter un peu de la nourriture, des biscuits et un peu d'eau. Et finalement, on a pu embarquer et on était 50 dans la pirogue. Le commandant, le gars qui s'occupait de la pirogue, avait un GPS pour s'orienter, mais quand on était en mer, c'est gâté le GPS et on s'est perdu. Et on est resté 9 jours en mer.
Et justement, ces 9 jours en mer, comment ça s'est passé?
Bon, c'est des moments très très douloureux hein, parce que c'est des moments où on est resté sans nourriture, c'est des moments où on a vu des gens qui étaient à côté de nous mourir. Les premiers morts, c'était très dur pour nous parce que on disait on pouvait pas les garder, il faut les jeter directement à la mer et c'est ce qu'on a fait. Ensuite, plus le temps passe, plus les gens étaient faibles et plus on avait de morts. Il y avait 12 morts et c'était difficile. Et la nuit, tout était étrange. La nuit, tout était étrange, sous la pluie des fois et le bruit des vagues et tout. Et c'est comme si on entendait des bruits bizarres et voilà. Bon, c'était vrai qu'à cette époque, l'âge que j'avais ne me permettait pas réellement de supporter tout cette chose-là. Mais grâce à Dieu, je m'en suis sorti.
Et vous racontiez, quand on a préparé cette émission, que les gens, justement, pendant la traversée, devenaient comme fous.
Il y a beaucoup qui déliraient. Mm. Parce que il y a beaucoup qui, d'un coup, ils se mettaient à crier et à pleurer. C'est un peu difficile. C'est des choses que on a du mal même à s'en rendre compte actuellement si réellement on est réussi à passer cette étape de la vie qui était très difficile.
Et justement, tout ce parcours, vous avez pu le raconter un jour à quelqu'un ou pas?
Ben non, sincèrement, grâce à l'émission Appel sur la Tialité, ma femme et moi, parce que je suis marié avec une Espagnole, me dit écoute, malheureusement que les médias espagnols ne font pas beaucoup de débats, mais toi qui parles français, tu peux tenter avec RFI, il y a cette émission intéressante qui est Appel sur la Tialité, pour on peut parler.
Et raconter.
Parce que ça fait du raconter un tout petit peu. Ne serait-ce que pas pour toi, mais pour les autres qui demain essayeront de prendre la mer, ils savent un tout petit peu les dangers de la mer, quoi.
Comment vous allez aujourd'hui? Je crois savoir que vous faites des cauchemars la nuit.
Bon, oui, pas toutes les nuits, mais des fois, j'ai comme si je ferme les yeux, s'il fait trop noir, c'est comme je revois un tout petit peu les mêmes vagues, c'est comme j'étais dans la mer. Ouais, ça m'arrive pas tout le temps, mais des fois.
Et je crois aussi savoir que votre femme et votre belle-mère vous conseillent justement d'aller en parler à un psy.
Non, ma belle-mère, elle travaille dans un hôpital et elle me dit toujours il faut parler avec quelqu'un, il faut aller voir un psy. Mais en fait, moi au début, là je me rends compte que ça devient urgent, mais au début, je voulais pas entendre de ça. Et même quand à la télé on montre les bateaux des émigrés, je quitte le salon, je vais faire autre chose jusqu'à ce que ça termine et je reviens.
Parce que c'est insupportable pour vous. Et c'est la même chose, je crois que vous n'allez pas en bord de mer.
En bord de mer, j'y vais, mais je me baigne pas. Je
ne pas rentrer dans l'eau.
J'entre pas dans l'eau du tout.
Armand de Côté, j'ai évidemment envie de vous faire... Vous restez en ligne, Babacar, avec nous pendant toute l'émission. Vous pourrez d'ailleurs réagir et rapporter des éléments quand vous le voulez. Armand de Côté, ce que vient de raconter Babacar, vous l'entendez régulièrement en consultation?
Oui, tout à fait. C'est ce que Babacar vient de dire, et notamment la question du cauchemar. C'est une question qui est au centre Primo Levi depuis 20 ans d'existence. On entend toujours, c'est-à-dire que la plupart de ces personnes qui n'ont pas eu de blessures physiques et après un certain temps, elles se disent bon, ça y est, tout va bien, mais malgré tout, il y a des traces et des choses qu'ils n'arrivent pas à oublier. Donc c'est
même
ça.
Même 10 ans après.
Oui, voilà, il y a le temps, n'existait pas en quelque sorte pour l'inconscient. C'est la base de la psychanalyse, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne sait pas pourquoi, mais ils restaient là. Et la seule façon de pouvoir en quelque sorte pas oublier, mais que ces choses-là puissent pas l'empêcher de vivre ou de faire des conduites comme au Babacar, des un peu des conduites d'évitement, tout simplement, c'est un traitement. C'est effectivement par la parole, c'est-à-dire aller parler avec quelqu'un, parce que bon, la question du témoignage c'est important, intéressante, mais il y a ces questions privées où, quand on va voir un psychologue, la parole prend un autre sens, que c'est pas le sens seulement du témoignage.
Et donc, justement, qu'est-ce que ça apporte de venir parler avec vous?
Alors, c'est d'après ce qui nous disent les patients, ça apporte justement la possibilité de que cette histoire qui est impensable, parce que ce qui décrit Babacar, il me semble, sont des choses que personne peut penser, sauf si on l'a vécu, etc. Donc, c'est pouvoir tenter d'attirer un savoir et que ces savoirs puissent permettre d'en parler autrement et d'échanger quelque chose pour la vie personnelle. Donc ça a tout un sens pour chacun, mais ça ne veut pas dire non plus, parce qu'il y a beaucoup d'autres témoignages où il y a des personnes qui n'ont pas besoin de passer par un traitement psychologique. Mais c'est à chacun, et je pense que c'est le symptôme, c'est-à-dire les cauchemars qui empêchent de vivre, qui montrent qui a eu un traumatisme.
Et qui a besoin d'aller parler. Justement, quelles sont les manifestations de ce traumatisme? Ce sont d'abord les cauchemars, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manifestation?
Donc surtout, ce qu'on a remarqué au centre Primo Levi, avec ces personnes qui ont des parcours extrêmement différents, mais en même temps qui se rejoignent dans des points où c'est la violence extrême, et justement la traversée souvent de la Méditerranée ou de d'autres mers, c'est l'impossibilité d'oublier de certains moments, pas tout, parce que
oui, qui revient dans les cauchemars, mais pas que, qui peut revenir dans la vie de tous les jours et d'y penser.
Tout à fait. Donc aussi on retrouve la difficulté de concentration, par exemple, et des difficultés des
de concentration, de travail.
Des travails, donc ça les empêche de trouver un travail après. La difficulté aussi, pour les enfants, on retrouve souvent des problèmes d'apprentissage, mais aussi d'apprendre une nouvelle langue, de s'intégrer. Il y a l'isolation, les gens ne veulent pas rencontrer d'autres personnes.
C'est ça, un blocage.
Un blocage. Et...
est-ce qu'on peut parler de syndrome de stress post-traumatique, dont on parle beaucoup en ce moment?
Nous évitons d'utiliser justement ces types des termes, parce que ça enferme les personnes, et effectivement ça dépend de la question du temps, c'est-à-dire n'importe qui a vécu qui a rencontré quelque chose d'inattendu va avoir des réactions un peu qui on retrouve dans ce type de syndrome. Mais c'est justement la question du temps et après la question de la demande, comme Babacar nous a dit, que dans les temps, il y a des choses qu'on n'arrive pas à oublier, qui sont plus fortes que nous. Et c'est ça qui va vraiment faire la question de pouvoir demander.
De consulter. Voilà. De consulter. Maurice Joyeux, vous faites partie de JRS, vous êtes basé en Grèce. Vous entendez le même genre d'histoire en Grèce, de migrants?
Oui, beaucoup d'histoires de récits de mort, de traverser la mort, puisque ces gens-là parlent encore. Les autres, ils sont pas renfloués, hein,
sont pas
du côté de du souffle pour parler. Moi, je crois donc, alors je suis témoin de beaucoup, d'une diversité très grande. Bon, 21 ans, un Syrien torturé pendant un an et demi, qui traverse la mer Égée vers Naxos depuis Izmir en Turquie, et qui en plus coule en mer. C'est le bateau de la police qui a foncé sur eux après plusieurs arraisonnements et qui a décidé de le couler. Il survit parce qu'il nage pendant 6 heures, bon, et il arrive à Naxos. Et puis plus tard, il arrive à Athènes. Mais dans un premier temps, il dort dans la rue et il n'a pas les moyens de parler. Quand j'ai le contact avec lui, je me retrouve dans un bar et pendant 2 heures, je n'ai pas pu en placer une. Il m'a sorti tout ce qu'il avait vécu. Comme j'étais prêtre, puisque je suis jésuite, et qu'il est orthodoxe de confession, il s'est ouvert encore un peu plus et c'est allé beaucoup plus loin, mais je peux pas tout raconter. Sur la torture morale et physique très grave qu'il a pu subir, sans compter les viols, etc. Je pense à un couple aussi, à Asaf et Lana, syriens, 3 enfants qui ont traversé la mer, 21 heures de dérive. Devant l'île de Naxos, ils s'en sont sortis. Là aussi, grosse difficulté et différence dans le couple. La femme vit les choses différemment de l'homme dans le couple, et surtout quand tout de suite, une fois arrivé à Athènes, après pas mal de difficultés, il faut décider de confier 2 enfants à un couple ami égyptien qui, lui, s'en sort, arrive à prendre un avion vers la Suède et on se détache des 2 enfants. Et on les attend, ils sont toujours avec nous à Athènes et on essaie de les accompagner. Je pense encore à Émile qui, lui, se retrouve devant tout d'un coup un mur d'acier en pleine nuit. C'est le bateau qui va le sauver. Tous les autres sont morts, il s'en sort et il me demande le baptême. Mais il ne sait pas ce qu'il demande à ce moment-là. C'est simplement qu'il est sorti des eaux. Il a entendu que être baptisé chez les chrétiens, ça veut dire sortir des eaux. Donc il vient vers moi.
Et depuis, je l'ai marié, ceci dit. Je suis désolée de vous interrompre. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler du traumatisme des migrants.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des traumatismes dus au parcours migratoire. Vous le savez, plus de 5800 migrants ont été secourus ce week-end au large des côtes libyennes. On en parle avec Armando Côté, qui est psychologue clinicien à l'association Primo Levi, et Maurice Joyeux, qui fait partie de JRS, Jésuites Réfugiés Service, une association qui travaille justement auprès de nombreux migrants. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Joyeux, juste avant les informations, vous étiez en train de nous raconter les parcours de trois migrants, justement, qui vous avaient un peu raconté ce qui leur était arrivé avant d'arriver en Grèce, l'endroit où vous êtes basé. Ces histoires se ressemblent, en tout cas, par rapport au traumatisme vécu.
Oui, je dirais le premier traumatisme, c'est une forme de sidération totale par rapport à ce qu'ils ont traversé, la mort, hein, l'angoisse, la peur de couler, et aussi l'étonnement de survivre. Bon, alors le problème, c'est le temps qu'il faut pour pouvoir permettre à ces personnes d'être écoutées. Quand le premier accueil, je dirais, c'est d'abord si on parle pas que de la police pour les empreintes, etc. C'est les besoins de base, manger, avoir un toit, être mieux habillé, surtout si c'est en hiver, etc. Bon, une fois qu'on a à peu près réglé ça à Caritas ou autre ou dans d'autres organismes d'accueil, il y a la question est-ce qu'on a le temps et les moyens en termes de personnes disponibles pour écouter les personnes et leur permettre de faire le récit de leur expérience. Alors ça sera pas qu'une fois, il faudra si possible les revoir. Alors, moi nous bricolons, hein, objectivement. On n'a pas assez
parce
de moyens.
Il n'y a pas beaucoup de moyens, c'est ça?
Oui, on a pas, en termes de temps, de gens disponibles et d'organisation et puis aussi d'accompagnement de ces mêmes gens qui écoutent. Parce que c'est épuisant. Et on peut vite soi-même être embarqué dans une forme de détresse et si on n'est pas un peu compétent dans l'écoute et disponible soi-même. Bon, ça m'est offert de temps en temps d'être disponible pour ça et je trouve ça d'abord passionnant et très important. On voit des gens j'emploie le mot renflouement. Vous voyez, comme quand on renfloue une épave de bateau qui lorsqu'elle est sortie retrouve quelque chose un peu de son identité et peut parler à nouveau de son histoire. Et bien là c'est pareil. Pour moi, il y a urgence de ce côté-là, rien que pour la dignité des gens et une décence de l'accueil. Dans les camps de rétention que je visite, c'est la même chose. Grande difficulté, vous voyez, dès que j'arrive et que c'est très difficile, d'ailleurs on n'a que 10 minutes pour être derrière. D'ailleurs, c'est tout ça n'est contre le droit, hein. On est derrière les grillages du genre Guantanamo, à Corinthe, comme à Amygdalesa, au nord d'Athènes, où il y avait encore, il n'y a pas longtemps, 2500 migrants fuyant, disons, à l'intérieur de ces camps. Et vous avez une grappe humaine qui arrive vers vous, il faut avoir un nom, bon, pas genre Babacar que je vais voir, et je le rencontre, mais derrière lui, il y a une grappe humaine, et je peux pas lui parler intimement, donc je peux aller dans une cabine genre téléphonique où on arrive à peu près s'écouter, mais il y a tous les autres et les autres ils sont en train de vous dire vraiment je c'est pas mysticoïde ce que je raconte, c'est regarde-moi, je suis pas un criminel. Ils vous disent la première chose c'est ça. On n'est pas des criminels et ils sont une joie, vous voyez une joie parce que vous les regardez les mains vides, hein, j'apporte rien.
Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage d'Adama. Il a 16 ans, il est arrivé en France il y a un peu plus de 2 mois. Il est parti de la Côte d'Ivoire au début du mois d'août 2014, a traversé le désert jusqu'en Libye. Je dirais parcours assez classique. De là, il a pris un bateau avec l'aide de passeurs. Et justement, il commence par nous raconter la traversée. Des propos recueillis par Pauline Mocor.
Pour monter les gens sur le bateau, les Libyens, ils vous maltraitent. Ils sont arrivés parce qu'ils ont les pistolets, ils ont tous les pistolets. Ils vous titillent souvent, ils ont les bois en main.
Ils ont des bateaux en bois dans la main.
Donc ils te tapent avec ça pour vous faire rentrer. On a décollé, bon, à 22h, Dieu merci, nous sommes rentrés dans notre bateau jusqu'à 106 personnes.
106 ?
106. Mais il y avait des femmes enceintes. Je n'ai jamais monté sur la mer et je n'ai jamais vu la mer. Je n'ai pas supporté l'odeur d'essence qui était sur le bateau. Avec tout ce monde, je ne supportais pas. Lorsqu'on est arrivé sur l'Italien, là, on a vu maintenant le grand bateau italien qui est là-bas. Les Italiens, ils se sont approchés à côté de nous et ils nous ont jeté les gilets. Donc, lorsqu'ils nous ont suivis, on était très, très soulagés.
Vous, pendant la traversée,
Est-ce que vous avez eu des moments de désespoir?
Ouais, souvent ça arrivait. Quand les gens se lèvent, on dit asseyez-vous, asseyez-vous, et ça risque de se renverser. On n'a plus d'espoir parce qu'on se disait, nous tous on va mourir. Le bateau italien, quand on le récupère comme ça, directement il nous amène dans le campo, en Sicilia. Vous êtes là en tout cas, il vous donne à manger tout ce que vous avez besoin. Moi, là où j'étais, moi je n'ai pas trop apprécié parce qu'on nous a séparés. Parce que Etus, ils se disaient que Etus c'est le majeur, je suis mineur, je ne peux pas être parmi eux.
Et vous avez perdu le contact avec eux?
Jusqu'en présent, je l'ai perdu, j'ai perdu contact. Un jour comme ça, j'ai pris mon sac à 5 heures. J'ai dit, je pars. Il y a une ville qui, là-bas qui s'appelle Catania. C'est là-bas que j'ai emprunté mon train. Arrivé en Roumanie, c'était difficile pour moi parce que je n'avais pas d'argent. Un jour, j'ai vu un monsieur noir, un Africain, que je l'ai approché. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Il est parti au guichet. Il a pris des tickets. Un des Romains à Milan, de Milan à Paris. Je merci. Voilà comment j'ai fait pour rentrer ici en France le 19 février.
Aujourd'hui, est-ce que vous faites des cauchemars?
Quand ça m'arrive, je me réveille un coup comme ça. Des fois, j'ai peur.
Est-ce que vous en parlez?
Non. Je ne parle pas à quelqu'un.
Pourquoi?
Parce que je ne sais pas qui a expliqué.
Vous aimeriez en parler à un psychologue?
Je viens parler avec une médecin du monde, mais elle m'avait donné rendez-vous de passer la voir. Je n'ai pas pu passer parce que je n'aime pas trop frôler. Quand je n'aime pas d'argent, je n'ai pas de ticket. Et s'il y a contrôle, qu'est-ce que je vais faire?
Ça vous fait peur de frauder les transports?
Ça me fait peur.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adama vit dans des conditions et a vécu dans des conditions difficiles à son arrivée à Paris, dormi longtemps à la rue. Une réaction à Armando Côté, il faut un minimum, je dirais, de structure et de soutien pour pouvoir aller voir un psy. Je veux dire, enfin, c'est, on sent bien dans ce qu'il dit, c'est compliqué dans des situations de vie difficiles.
Oui, tout à fait. Surtout que les mineurs isolés étrangers en France sont des adolescents. Donc, on sait bien que pour un adolescent, même un adolescent type, c'est difficile de parler à un adulte et faire confiance. Donc, d'autant plus pour des personnes qui arrivent de l'extérieur. Donc, la question de la demande, c'est essentiel. C'est-à-dire que nous, au Centre Primo Levi, souvent, il y a beaucoup des professionnels qui nous adressent effectivement des mineurs isolés qui vont pas bien. On les reçoit, le premier entretien, et on voit que la demande vient du professionnel, mais pas de l'adolescent. C'est-à-dire que lui, il n'est pas prêt à pouvoir venir et parler et se confier à quelqu'un. Donc, il faut plusieurs années
après l'événement qu'on est disponible pour en parler.
Tout à fait. Il faut vraiment atteindre des moments où la personne soit disponible pour en parler. Donc,
et éprouve le besoin. Oui. On a au téléphone Gaia Quaranta, qui est psychologue pour Médecins Sans Frontières en Italie. Gaia Quaranta, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Comment vous aidez les migrants de façon assez concrète, là, à MSF en Italie?
MSF a un projet de santé mentale, soit dans le centre de premiers secours et accueil de Pozzallo, dans la province de Ragusa, qui se trouve en Sicile, où les migrants en général et les demandeurs d'asile sont transférés immédiatement après le débarquement. Et il reste théoriquement 72 heures pour toutes les procédures d'identification. Et nous avons aussi un projet dans le centre de deuxième accueil extraordinaire ou émergentiel, où les demandeurs d'asile restent pendant toute la demande d'asile. Donc l'intervention des psychologues MSF est différente dans les deux contextes.
Et ce sont
dans le contexte, dans...
C'est des endroits où ils peuvent rester des mois.
Oui, bien sûr.
Et concrètement, qu'est-ce que vous faites en tant que psychologue?
Donc, dans le centre des premières secours et accueil, en général, nous recevons des orientations de la part des collègues MSF, donc médecins, infirmières et médiateurs culturels, pour une première évaluation clinique des migrants qui présentent des réactions de stress aigu, des états dissociatifs, ou des bouffées délirantes liées au traumatisme récemment vécu comme les naufrages, l'avoir été témoin de la mort de quelqu'un pendant la traversée de la Méditerranée, ou même dans les actes de violence extrême et de torture souvent vécues juste avant le débarquement et le débarquement de la Libye. Beaucoup des personnes qui nous rencontrons nous racontent qu'ils sont obligés, ils sont jetés sur les bateaux, ils sont battus et parfois ils arrivent avec aussi des blessures d'armes à feu. Et donc l'intervention dans le centre de première secours, c'est une intervention d'évaluation, d'orientation vers les services de santé mentale territoriale. Et puis, on a une intervention en disant d'urgence pendant les situations de débarquement tragique, de naufrage. Donc, on a une équipe de psychologues et de médiateurs culturels qui font une intervention de premier secours psychologique et accompagnement pendant les phases de reconnaissance des cadavres et pendant la période où il reste encore dans le centre de premier accueil.
Et Médecins Sans Frontières a aussi décidé de venir en aide à ces migrants avec un bateau qui va sillonner la Méditerranée. Je crois même que ce sont deux bateaux. Que vont-ils faire exactement?
Ils ont une mission de recherche, de sauvetage et de soins médicaux. Un bateau, c'est le bateau de Moas. Et là, nous avons juste l'équipe médicale à l'intérieur. Et il y a un deuxième bateau qui va commencer sa mission cette semaine sous MSF Belgique. C'est toujours une mission de recherche et sauvetage dans la mer.
Et sauvetage de première urgence. Qu'est-ce que vous demandez, vous, Médecins Sans Frontières, aujourd'hui par rapport justement à tous ces migrants, à la prise en charge de ces migrants?
Nous demandons d'avoir des voies plus sûres et pour éviter encore des tragédies annoncées comme le dernier naufrage. Donc, des voies pour permettre les personnes de rejoindre l'Europe d'une manière sûre.
Et c'est-à-dire, concrètement?
Et concrètement, de permettre des couloirs humanitaires et des couloirs humanitaires pour permettre aux demandeurs d'asile qui s'enfuient des persécutions
de pouvoir demander l'asile de façon correcte et pas en étant obligé d'arriver comme ça sur le continent européen, c'est ça?
Oui, c'est ça. Pour ne pas risquer leur vie.
Armando Côté, qu'est-ce que justement vous, à Primo Levi, vous demandez suite à toutes ces affaires en Méditerranée?
Oui, j'ai rejoint ce qu'a dit ma collègue de Médecins Sans Frontières, c'est-à-dire que la question, c'est que souvent ces personnes ont quitté déjà un pays en guerre, ils ont fui la torture, la violence, et ce qui les rend malades souvent, c'est les parcours migratoires. Donc justement, parfois ils partent malgré tout dans des bonnes bonne santé, avec déjà des difficultés, mais c'est le parcours migratoire
qui va aggraver la situation.
Les témoignages des Babacar, c'est la preuve. C'est-à-dire que la traversée ce qui reste des années après, c'est la traversée de la Méditerranée. Donc, c'est complètement illogique. C'est-à-dire que si on était clair par rapport à la question de l'asile politique et la question de la santé mentale, on pourrait éviter des drames, pas seulement humains, mais aussi des questions de santé
mentale. Mentale, oui. Babacar voudrait réagir, justement.
Voilà, parce que, en fait, souvent les gens disent qu'il faut faciliter l'obtention des visas. Moi, je dirais que ça va créer encore beaucoup plus de problèmes. Parce que ça va pas résoudre le problème de l'immigration. Parce que, imaginez par exemple, pour le cas du Sénégal que je connais bien, même si on facilite le visa, pour avoir un visa, il faut, l'ambassade demande des bulletins de salaire, une compte bancaire. Alors, pour la plupart des gens qui viennent du Sénégal, nous venons de l'intérieur des terres, nous sommes des cultivateurs ou des parents bergers. Alors, nous n'avons pas accès à ces bulletins de salaire et aussi à ces comptes bancaires-là. Et là, c'est un autre problème. Je voudrais aussi lancer un appel aux aux États européens, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou la France, pour qu'ils puissent axer un contrôle radical au niveau des émigrés qui sont déjà installés. Parce que là, on parle de trafic ou de la Méditerranée, mais il y a autre trafic qui nous tue aujourd'hui, qui est beaucoup plus, en fait, moralement, c'est ce que font les émigrés qui ont duré pendant des années ici.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par ça ? Soyez plus précis.
Pour la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui aujourd'hui, pour l'Espagne, des gens qui ne travaillent pas, ils ont des papiers, ils vont louer des maisons, des appartements qu'ils louent à 450 ou 500 euros, et ils mettent dedans 15 à 16 personnes. Et chaque personne paye 100 à 150 ou 120 euros par mois.
Ce qu'on appelle les marchands de sommeil, c'est-à-dire
des marchands de sommeil.
Ouais, des marchands de sommeil, des compatriotes qui exploitent d'autres Sénégalais, en l'occurrence d'autres migrants, en les logeant avec des coûts excessifs et dans des conditions absolument sordides. Et ça vous est arrivé, vous, quand vous êtes arrivé en Espagne ?
Ça m'est arrivé,
Vous avez eu ça. Maurice Joyeux, une réaction aussi ?
Oui, quand j'entendais les réflexions de MSF depuis l'Espagne, je me disais, ils en ont de la chance, malgré déjà toute la détresse. En Grèce, c'est beaucoup plus chaotique et dangereux.
L'accueil des réfugiés.
L'accueil des réfugiés, mais aussi, par exemple, dans les camps de rétention, l'absence des assistants sociaux. Les fonds sont détournés. Souvent, je sais qu'il y a des fonds qui sont prévus et même qui ont été versés par l'Europe. Récemment, encore, même il y a eu même une tentative avec le nouveau gouvernement de tout fermer de ces camps de rétention. Puis on est revenu sur la décision. C'est chaotique au point de vue de la pensée, et la police même supporte. J'en arrive à être l'avocat de la police pour dire que la police est trop seule en direct avec tous ces gens-là, qu'ils soient corrompus ou non corrompus. Et il faudrait laisser les ONG vraiment internationales et un peu sérieuses davantage intervenir à l'intérieur
des
camps de réfugiés.
Donc des conditions absolument sordides dans ces camps de réfugiés.
Tout à fait. Alors ça s'est amélioré grâce à des financements européens, etc. Mais humainement parlant et concernant même l'accès aux soins, au savon, au shampoing, ou sans aller rêver de shampoing même, à une nourriture décente et contrôlée, il y a du boulot, je peux vous dire. Et j'appuie la demande de Babacar et la réflexion, parce que je la trouve très pertinente. En Grèce, par exemple, il y a aussi beaucoup de violence, bien sûr, entre eux, parce que c'est du chacun pour soi, c'est du sauve qui peut. Et donc, entre les communautés, à l'intérieur des communautés, il y a des gens qui sont des esclavagistes et qui se font beaucoup d'argent. Et cela, il faut aussi essayer de les repérer.
C'est ce que dénonçait Babacar.
Oui.
Vous avez aussi lancé une pétition en ligne. Vous demandez quoi, vous, justement, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment ?
Moi, d'abord, je demande pas, je crie. C'est-à-dire que j'essaie d'être la voix des sans-voix. C'est une des vocations de JRS. De nous faire proche des situations de drame, dans la durée ou apparemment ponctuelle, mais qui se répètent trois fois trop ces naufrages, et essayer de donner la voix des sans-voix. Je pense qu'il faut que nous levions, et que ce soit pas qu'on renvoie pas les choses aux gouvernants. Nous sommes tous des gouvernants, nous avons tous des oreilles pour écouter, tous des oreilles pour entendre, pour voir et pour nous exprimer. Donc je pense que beaucoup de gens, d'ailleurs on en est à pas mal de milliers de gens qui nous ont rejoints dans la pétition, il y a un service à rendre, et vous le faites à RFI en nous donnant la parole, et merci, et en donnant la parole à des gens qui sont plus sur le terrain encore que nous. Il y a un enjeu très fort de prise de parole au nom de tous ces gens, soit morts, soit mutiques, parce que complètement sidérés, c'est-à-dire sans désir, sans même espoir, pour pouvoir trouver un chemin d'avenir. D'abord, je pense qu'il fallait s'exprimer. Bon, je pense que c'est pas fini. Continuons, mais agissons aussi. Je suis d'accord qu'on aille au centre Primo Levi, ou qu'il y ait une organisation de gens sérieux, compétents, tout ça. Mais à mon avis, il faut nous tous, si nous pouvons, qui que nous soyons, nous avons la possibilité de parler à quelqu'un qu'on voit qui traîne dans la rue avec son caddie dans Athènes, en train de ramasser de la ferraille et qui survit. Collins du Ghana, depuis 3 ans. Nourrit 4 de ses enfants grâce à la ferraille qu'il ramasse chaque jour. Mmh. Un jour, je lui parle. On est devenus des grands amis. C'est un type qui a une intelligence, qui a un potentiel. L'Europe est en train de rater l'accueil de gens d'une potentialité invraisemblable, d'une audace, d'un courage, il faut parler de leur dignité. Il nous faut donner visage à la dignité de ces gens et surtout à leur intelligence. Souvent, beaucoup qui ont traversé ou sont partis sont des ambassadeurs de leur village ou de leur clan. Et c'est pas n'importe qui, ces gens-là. C'est des gens d'une très grande dignité.
Qui ont été envoyés justement pour aider leur famille après sur place à distance. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, Armand de Côté. Je voudrais juste qu'on en dise un mot. C'est quand même la question de la culpabilité du survivant. Quand on a vu autant de gens décédés que soit on en s'en est sorti, il y a une forme étonnante de culpabilité.
Oui, c'est vrai qu'on retrouve ça pas seulement pour la traversée de la Méditerranée, mais même les rescapés de la Shoah. C'est surtout là-dessus qu'est venu ces termes. Et la question qui se pose, c'est pourquoi moi et pas les autres? On a vu tous les témoignages où Babacar les disait, il fallait jeter les corps et les gens décédés. Et finalement, eux, ils se retrouvent en vie. Donc, pourquoi eux? Ça reste une question pour la vie. Donc, c'est une question vraiment dont la question, c'est comment penser ça? Quoi faire de ça, de cette survie? Mais comme Maurice Joyeux vient de le dire, je pense que c'est pouvoir retourner ça, pas du côté de la mort, mais du côté de la vie, justement.
Cette question de la culpabilité du survivant, il y a une autre question que Babacar a abordée, c'est la question des violences sexuelles. Peu témoignent de ça, c'est une réalité aussi. J'imagine que vous l'entendez aussi en consultation.
Tout à fait, et ça rejoint la question de la honte, c'est-à-dire que souvent, même dans les récits des vies et tout ça, les points les plus difficiles à aborder, c'est justement parce qu'ils sont couverts de honte et parfois, même, ils sont pas capables d'arriver à dire qu'on était violés, qu'on subit des choses épouvantables, parce qu'ils sont honte.
Et ce sont des victimes. Ouais. Juste un mot, je suis désolée, il y a Ibrahim qui attend en ligne, mais on n'a pas le temps de prendre son témoignage, mais qui raconte aussi l'horreur. On a reçu un message aussi de Clément au Togo qui raconte la même chose à chaque fois, des parcours absolument épouvantables. Je voudrais vous laisser le mot de la fin, Babacar. Est-ce que juste d'avoir entendu parler de tout ça, finalement, vous vous dites que c'est peut-être pas idiot d'aller voir un psy, que ça peut vous aider, Babacar?
Surtout ça, et là vraiment, je remercie beaucoup RFI pour ce qu'ils m'ont permis. Parler, j'en avais besoin. Et je voudrais profiter de pour lancer un appel à la diaspora, à toute la diaspora africaine, qu'ils cessent d'être des ambassadeurs de l'ambiance, là où on n'en a pas besoin. Parce que là où on parle de diaspora, vous n'avez jamais vu des collègues qui ont été montés par la diaspora, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou aux États-Unis, pour parler de l'immigration. Souvent, quand ils se réunissent, quand nous nous réunissons, c'est pour faire la fête, c'est pour appeler des chanteurs, c'est pour faire la belle vie. Alors, de cette façon-là, les gens qui sont restés au pays vont dire, écoutez, là-bas tout va bien. Et ce n'est pas vrai du tout.
Il faut raconter ce qui vous est arrivé pour que les gens sur place sachent que c'est que ce parcours, pas un parcours idéal et des vies difficiles en arrivant. Vous avez raison, Babacar, d'interpeller là-dessus. Merci beaucoup. Vous nous tenez au courant du comment vous allez. Votre santé nous intéresse, Babacar. On va terminer avec un tout autre sujet parce qu'on va donner la parole à Stéphane Besançon. Stéphane, bonjour.
Bonjour Claire.
Comme tous les lundis, vous intervenez dans cette émission pour une chronique nutrition. Vous êtes directeur de santé et diabète. Vous êtes basé à Bamako, au Mali. Et justement, la semaine passée, vous nous avez dit que l'activité physique, comme l'alimentation, est essentielle pour rester en bonne santé. Mais alors, comment faire justement quand on est atteint de diabète pour démarrer une activité physique?
Alors ça, c'est un point central. Toutes les personnes qui sont atteintes de diabète, qui nous écoutent, doivent savoir que l'activité physique est considérée, tout comme l'alimentation, comme une partie intégrante de leur traitement, de leur pathologie. On appelle ceci, dans le jargon médical, les mesures hygiéno-diététiques. Par rapport au diabète, l'activité physique va permettre un meilleur équilibre de celui-ci en agissant à la fois sur le taux de sucre dans le sang, mais aussi en favorisant la perte de poids.
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre tout de même ?
Oui, il y en a différentes. En premier lieu, pour toutes les personnes atteintes de diabète, il faut absolument prendre un avis médical avant de démarrer une activité physique. Cet avis médical doit tenir compte aussi des possibles complications cardiovasculaires des patients. Malgré ceci, on peut quand même donner quelques recommandations génériques à nos auditeurs. Il faut qu'ils démarrent par une activité physique modérée, qui montera en puissance progressivement avec avis du médecin, qui pense à boire régulièrement, surtout dans les pays très chauds, qu'ils évitent de faire de l'activité pendant les temps très chauds, donc d'en faire plutôt le matin ou en fin d'après-midi, et enfin qui pense à utiliser des chaussures confortables qui ne risquent pas de blesser les pieds. Ceci, j'insiste, c'est très important dans les pays où vous avez vos auditeurs, parce qu'on sait que l'incidence du pied diabétique est très 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 forte dans ces pays.
Et juste une dernière question, est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour les patients qui sont traités avec de l'insuline ?
Oui, alors là on a un risque d'hypoglycémie, donc il faut que les patients soient très vigilants par rapport aux signes de l'hypoglycémie et que quand ils fassent du sport, ils aient toujours des carreaux de sucre sur eux. Comme ça, dès qu'il y a des signes d'hypoglycémie, ils doivent arrêter tout de suite l'activité physique, prendre 3 carreaux de sucre et reprendre l'activité physique si les symptômes sont partis.
Et en prévision du Ramadan, on consacrera, je crois, les 3 prochaines chroniques justement à la problématique de l'alimentation durant le Ramadan. On fera aussi des émissions sur cette question. Merci à tous. Merci à tous pour vos témoignages dans cette émission. Armando Côté et Maurice Joyeux, merci. Demain, on parlera de l'asthme chez l'enfant et vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.sante@rfi.fr ou par téléphone au 33 1 84 22 75 75. Et vous trouverez sur notre site internet à la fois le blog de l'émission où vous pouvez retrouver la chronique de Stéphane Besançon sur l'activité physique et aussi les coordonnées à la fois de JRS et de l'association Primo Levi. À demain.